carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Venise est un mystère synonyme de beauté. Son architecture, son originalité, la présence de l'eau en font une ville unique au monde. Son essor marchand, son organisation politique ont fait de la République de Venise la puissance dominante de la Méditerranée au XIVe siècle. Byzantine, gothique, lombarde, orientale, elle a fasciné de tout temps ses visiteurs par ses richesses, sa créativité et ses audaces, offrant plusieurs visages. La sérénissime cité a toujours consacré les arts, tous les arts, peinture, sculpture, architecture, arts décoratifs, rapportant les matériaux les plus nobles pour ses édifices grâce à ses liens commerciaux avec l'Orient. Tous les arts, ceux de la fête, des jeux et des plaisirs, surtout au XVIIIe siècle, faisant la renommée de la cité. Inscrite dans le grand tour des artistes, elle fut pour tous les peintres une source exceptionnelle d'inspiration au cours de l'histoire. Au XVIIIe siècle, la ville en déclin, après la découverte du Nouveau Monde, vit sur la richesse de son passé et son sens aigu de la fête. Sa force d'attraction reste intacte. La joie, la gaieté, perle de la musique de Vivaldi, son célèbre compositeur, son architecture baroque, la part de nouveaux atours au gré des lacis de ses canaux, assurant une renommée renouvelée. Ses peintres, les Vedutistes, ceux qui ont choisi de faire de ces paysages urbains une nouvelle quête de la peinture à la fin du XVIIe siècle, ont assuré le triomphe de la ville au XVIIIe en diffusant son image, ses couleurs, son exotisme au cœur de l'Europe des Lumières. Le succès en fit un genre prisé jusque dans les salons anglais. Les peintres Canaletto et Guardi sont les deux grands maîtres de ce qu'on appelle le Vedutismo ou la Veduta. Canaletto et Guardi inventent avec leurs palettes et leurs pinceaux une Venise de cartes postales avec lettres de noblesse à la clé, alimentant l'imaginaire des voyageurs et le mythe de la beauté presque éternelle de la cité des Doges. C'est de cette tradition picturale dont nous allons parler aujourd'hui avec Nicolas Sanfargarno, le conservateur du musée Jacquemart-André, qui consacre une exposition à Canaletto et à Guardi, son cadet, en tant que commissaire associé. Canaletto, Guardi, les deux maîtres de Venise, c'est à la fois un très beau livre publié par Culture Espace et le fonds Mercator et une exposition exceptionnelle au musée Jacquemart-André à Paris, sous la direction scientifique de la grande spécialiste italienne de la Veduta, ses peintures de vue du XVIIIe, Madame Bozena Anna Kowalski. L'exposition a ouvert ses portes le 14 septembre. Elle dure jusqu'au 14 janvier 2013. Nicolas Sanfargarno, bonjour.
Bonjour.
Alors abordons le cœur du sujet de la Veduta avec deux de ses plus grands maîtres, Canaletto et Guardi. C'est un sujet évidemment classique, intemporel, mais qui je pense ravira à la fois les amoureux de Venise et les amateurs de peinture. Nicolas Sanfargarno, qui a initié ce genre pictural de la Veduta? Est-ce qu'il est né à Venise?
Alors curieusement, et c'est là le premier étonnement de l'exposition, on s'aperçoit que ce genre n'est pas né à Venise. C'est par l'intermédiaire d'artistes du Nord, flamands et hollandais, que cet intérêt pour le paysage en général, et puis le paysage urbain en particulier, s'est développé. Et pourquoi ? Parce que depuis le XVIe siècle, de très nombreux artistes venus des villes du Nord, Anvers et puis plus tard Amsterdam, vont venir faire le voyage en Italie. C'est une obligation pour les artistes de cette époque, l'Italie étant considérée comme le berceau de tous les arts. Et quand on dit l'Italie, on pense à Rome, bien sûr, ou à Florence, mais là, en l'occurrence, c'est Venise. Alors nous avons, dans l'exposition, nous avons deux représentants de ces artistes venu du Nord, Gaspard Van Vittel, qui nous propose une très belle vue de la Piazza San Marco. Elle est exécutée en 1697. Vous voyez, on est quasiment au tournant du siècle. Et puis deux autres tableaux également de Luca Carlivarige, qui est un Frioulais et qui vient également à Venise et qui va continuer le genre. Ça nous amène, vous le voyez, au tout début des premières années du XVIIIe siècle, et c'est précisément au moment où va intervenir le jeune Canaletto.
Canaletto qui, à ses tout débuts, s'occupe de décors de théâtre dans l'atelier de son père ou avec son père ou par la tradition familiale, et il va abandonner cette peinture-là pour la peinture, justement, pour ses vues.
Oui, et en effet, il faut le souligner, c'est très important pour que nos auditeurs le comprennent. La tradition à l'époque, au XVIIIe siècle comme au XVIIe siècle et précédemment, vous le savez souvent, c'est que les fils de famille reprennent l'activité de leur père, quand ce n'est celle de leur grand-père. Et donc, bien entendu, le père de Antone Canaletto est un peintre. Mais attention, c'est un peintre décorateur et il travaille notamment pour des théâtres. Il fait les fonds de scène et les différents décors. Ça demande beaucoup d'habileté. C'est pas forcément ce qu'on attend du premier des artistes de l'époque. Et il faut bien comprendre qu'il y a une grande différence d'appréciation professionnelle, sociale, esthétique entre le peintre d'histoire. Eh bien, le contemporain de Canaletto à l'époque, c'est, on pourrait dire, Piazzetta et également Tiepolo, donc ces grands peintres décorateurs, et puis les peintres de genre, comme l'ont été en premier lieu le père de Canaletto et ce qui va devenir par la suite. Alors, je m'arrête juste un instant parce que l'un des intérêts de l'exposition, c'est de nous montrer en entrée de la manifestation plusieurs très grands formats, hein, des tableaux qui font quasiment 3 mètres de haut sur 2,50 mètres de large, une chose à quoi on s'attendrait pas du tout. Et ces tableaux, ce sont des scénographies. Et la deuxième chose importante à souligner, c'est que ces tableaux sont réalisés pour le compte de commanditaires vénitiens. Autrement dit, au début de sa carrière, un Canaletto qu'on ne connaît pas du tout travaille dans un genre et pour des clients qui ne sont pas ceux auxquels on s'attend. À l'inverse, et très rapidement, il va changer de sujet parce que la clientèle britannique, vous l'avez rappelé, le demande. Il va adhérer à ce genre qu'il a vu, puisque les tableaux de Van Wittel et de Karl Evaridge sont présents à ce moment-là dans la Venise de son temps. Et il va, en quelque sorte, changer de main.
Changer de corporation, je crois.
Adopter absolument, adopter ce genre et en devenir, en quelque sorte, le spécialiste.
Alors, les peintres de ces peintures de vue, là, ces vedutisti, utilisaient des moyens techniques de leur époque très poussés. L'optique avait fait beaucoup de progrès, des progrès assez performants. Et je voudrais évoquer avec vous la fameuse caméra obscura pour expliquer leur manière de s'approprier à la fois ces paysages urbains dans un souci de réalité, mais pas tant que ça. Justement, ils savent jouer aussi de cette technique-là.
Oui, alors il faut...
Pourquoi je dis ça ? C'est pour la resituer dans l'époque des Lumières, époque de progrès, etc.
Bien sûr. Alors, il faut souligner plusieurs choses. Dans les écoles du Nord, les artistes qui proposent des vues urbaines s'intéressent à la configuration des lieux, aux différents bâtiments qui peuvent orner, par exemple, une place, un monument comme un beffroi ou une cathédrale, et puis c'est l'enchevêtrement de tous ces bâtiments avec, pourquoi pas, une foule par devant. Voilà, c'est de cette façon-là qu'ils envisagent ces représentations. Alors, à Venise, ça prend un caractère très particulier parce que les vedutistes qui nous intéressent, c'est-à-dire Canaletto le premier, puis Guardi et tous ceux qui les entourent, vont, il est vrai, utiliser cet instrument qui est la caméra obscura. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est une chambre noire, un petit peu comme la boîte que formait autrefois un appareil photo, avec un trou qui est percé, qui laisse rentrer la lumière. Et donc, la lumière va au fond de la chambre optique se fixer dans une image. Et alors, une image que, à son tour, l'observateur, donc le peintre, peut regarder et qui lui donne une vision objective de ce qu'il a sous les yeux. Et c'est ce que recherchent dans un premier temps ces artistes. Ça veut dire qu'ils vont transformer la vision nordique pour proposer à donc leurs clients des représentations où la perspective est importante. Prenons un exemple précis. La Piazza San Marco, qui est placée devant la basilique du même nom. Il y a une profondeur et une perspective extrêmement importantes. Alors, les peintres, lorsqu'on leur demande « peignez-nous la basilique », ils ne vont pas s'installer devant la basilique pour la représenter en premier plan. Ils vont prendre du recul et, ce faisant, ils vont apercevoir de part et d'autre les deux côtés de la place avec les alignements de façade qui portent le regard vers le fond de la composition sur la basilique qu'on trouve en effet en bout de regard. Alors c'est ça qu'ils inventent, si vous voulez, c'est ce système de représentation qui est tout à fait neuf. Mais autant, il est vrai que la caméra obscura les aide à fixer cette orientation, autant je dois vous dire qu'on ne doit pas se méprendre. Et là, je vais presque me permettre un ton doctoral pour vous rappeler, et c'est vérifié à chaque fois qu'on regarde dans l'exposition les tableaux de Canaletto et de Guardi, on se rend compte, ça a été vérifié, on a vraiment étudié le détail. Lorsque ces artistes font usage de la caméra obscura, je le dis à nouveau, c'est pour fixer les grandes lignes, mais aussitôt, c'est pour les détourner.
Tout à fait. C'est
parce que, ne l'oublions pas, ce à quoi ils veulent arriver, c'est une représentation sensible, c'est-à-dire lumineuse et colorée de l'espace qu'ils ont sous les yeux. Et donc, ils sont amenés à transporter la première image, à la triturer,
À jouer avec cette perspective,
de façon à obtenir quelque chose de différent. Et là aussi, si vous voulez, on a dans l'exposition des exemples tout à fait impressionnants, notamment, je pense, à deux dessins provenant des collections royales d'Angleterre, qui sont deux esquisses de la Piazza San Marco. Et on le sait maintenant, parce qu'on a regardé un petit peu comment Canaletto a procédé, on comprend bien que Canaletto a besoin de trois dessins mis côte à côte pour obtenir le panorama qu'il nous propose dans ses tableaux. Donc vous voyez, en réalité, le dessin reflète ce que l'œil humain effectivement enregistre lorsqu'il se porte vers cette piazza ou cette basilique. Et donc Canaletto le traite à la plume. Mais lorsque il doit réaliser le tableau, alors il va reprendre ce qu'il a vu et puis le composer de telle sorte que nous ayons une vue équilibrée. Et en effet, nous avons, par exemple, pour revenir à cet exemple, nous avons, eh bien, de part et d'autre, ces alignements de façade. Et puis, de façon très symétrique, et dans le fond de la composition, nous voyons s'élever, en quelque sorte, la basilique. Donc là, il y a une vraie recomposition. Et c'est à cela qu'on mesure en quoi ce sont de vrais artistes et pas du tout, alors on pourrait dire, des praticiens ou des mécaniciens, parce que finalement, utiliser l'instrument revient à faire de la mécanique. C'est pas le cas ici.
On voit donc qu'ils font tous les deux un traitement particulier de la perspective, y compris à leur tout début. Canaletto, dès son apparition sur la scène vénitienne, fait ce choix d'une perspective particulière. Ça a beaucoup d'importance puisque Guardi va entrer à l'Académie de peinture au titre de peintre des perspectives. Donc c'est un élément vraiment essentiel. Tous les deux, non seulement vont travailler sur ces perspectives de Venise et les modifier, les recomposer, mais ils vont également recomposer ces perspectives et les accoler ou les utiliser pour d'autres vues, d'autres paysages urbains. Après, il y a une recomposition.
Complète,
tout à fait libre.
Oui, très libre. Alors justement, c'est en ce sens que ces compositions sont remarquables, puisque au fond, elles nous offrent des interprétations qui ne sont pas ce que l'œil regarde. Et là, vraiment, on peut se dire, oui, ce sont de vrais créateurs.
Voilà, c'était juste pour arriver à cette fin, donc cette combinaison de plusieurs points de vue sur une même toile. Qu'est-ce qui, en fait, diffère entre les deux styles de peinture, entre Guardi et Canaletto?
Je vais peut-être vous étonner, mais je vais vous dire que je ne peux pas vous répondre. Et pour m'en expliquer, voilà, je vous ferai quelques observations. Canaletto, c'est un artiste que nous voyons. Alors, je vais, pour nos auditeurs et pour ceux qui connaissent bien le musée Jacquemart-André, être le plus clair possible. C'est un artiste que nous reconnaissons dans ces deux tableaux qui appartiennent aux collections Jacquemart-André, c'est-à-dire le Pont du Rialto et la Piazza San Marco. Les deux sont présents dans l'exposition, je tiens à le souligner.
Et ils font partie des collections permanentes du musée. On y reviendra.
Donc, ces deux tableaux représentent ce que Canaletto fait dans sa maturité, disons, autour des années 1740. Et c'est peut-être là qu'il se rapproche le plus de la vue objective, en quelque sorte. Mais seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que avant comme après, le style de Canaletto a évolué. Et ce qui est très surprenant, je crois que les visiteurs de l'exposition en seront heureux, L'une des découvertes que nous faisons, et en ce sens, en suivant les propositions de Bozena, notre spécialiste, c'est de découvrir que Canaletto, au début, a été un peintre d'atmosphère. C'est-à-dire qu'en réalité, il a été beaucoup plus près de l'interprétation nordique de ce genre de peinture que par la suite. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que là aussi, vous aviez tout à l'heure remarqué que Guardi intervient environ 15 années après son prédécesseur et qu'il reprend à son compte ces mêmes représentations. Eh bien, Guardi, que fait-il ? Est-ce que, au moment où il commence à peindre, il regarde le Canaletto de son temps ? La réponse est non. Il revient au Canaletto précédent,
du début. De la jeunesse.
Et donc, vous voyez, c'est très curieux, suivant l'époque, en fait, la distance qui peut exister entre Canaletto et Guardi est variable. Et pour Guardi, d'ailleurs, on s'aperçoit de la même façon que le style évolue, plus ou moins accentué, et que chez l'un comme chez l'autre, il y a au fond des différences qui quelquefois sont importantes, quelquefois le sont moins.
Alors, tous les deux aiment jouer de la lumière, voilà. Tous les deux jouent des reflets, des effets atmosphériques, mais avec des touches et des palettes aussi un peu différentes.
Je voudrais, justement, je crois que vous avez touché juste, c'est peut-être en évoquant la palette qu'on mesure à quel point, au fond, l'un et l'autre découvrent leur personnalité. Chez Canaletto, me semble-t-il, l'importance, comment dire, des rouges, des ocres et des jaunes est sensible. Et ceci dresse en quelque sorte une forme de panorama dans lequel on pourrait dire que, au fond, ces couleurs vives, ces couleurs joyeuses, nous donnent un reflet peut-être de la personnalité profonde de l'artiste. Chez Guardi, vous avez regardé ces campos, ces piazzas qu'il nous représente, ces vues de la lagune, et on a un bleu plombé. On a des petits accents de lumière traités avec des coups de pinceau blancs. On a, vous voyez, ici un esprit que je dirais plus mélancolique. Alors voilà, peut-être que la différence entre les deux se joue de ce côté-là, encore que on peut trouver, bien entendu, chez Canaletto des tableaux tristes et chez Guardi des tableaux plus enlevés. Mais bon, retenons peut-être cette idée et disons que vraiment, je crois qu'ils montrent bien chacun leur véritable personnalité artistique au travers de leurs œuvres et que ça montre, bien entendu, dans un genre convenu, la place, là encore, que peut avoir la création.
Et l'exposition révèle aussi toute la diversité de ce genre, puisqu'elle expose également des tableaux de Bellotto, qui était apparenté à la famille de Canaletto, mais d'autres peintres également,
Marieschi
en particulier. Et pour montrer la diversité du genre. Et là, on voit justement, d'ailleurs, ça fait ressortir davantage le rapport entre Canaletto et Guardi aussi.
Absolument.
Ça révèle les personnalités des uns et des autres et leur identité.
Donc là aussi, si vous voulez, notre idée est toujours pour, essayer de traiter le plus largement possible ce genre si étonnant, avec de nombreux interprètes. Nous essayons de montrer avec les deux exemples cités, c'est-à-dire Marieschi et Bellotto, que ces mêmes artistes, qui ne sont pas mineurs, il faut bien le comprendre, qui ont des personnalités, là encore, autonomes par rapport à l'influence de ces deux grands maîtres, eh bien, on s'aperçoit que, là encore, ce ne sont pas des artistes mécaniciens qui répètent les mêmes images parce qu'on leur demande et qu'ils sont capables de donner, suivant l'époque, suivant leur inspiration, suivant aussi, bien sûr, les bâtiments qui sont en face d'eux, qui sont capables de les traiter avec un sentiment particulier. Et on admira, on a plusieurs Bellotto dans l'exposition. Vous voyez, vous avez rappelé vous-même que Bellotto était le neveu de Canaletto et qu'il a travaillé un temps dans son atelier. Alors on se dit presque naturellement, oui, c'est un suiveur, c'est un second Canaletto, mais d'un niveau un peu plus bas. Eh bien, pas du tout. Il suffit de 3 tableaux présents dans l'exposition pour comprendre, je le crois, au premier coup d'œil, qu'on a affaire à un artiste, je dirais, de la même qualité, pas de la même expression. Elle est différente et fort heureusement d'ailleurs.
Alors, c'est un genre qui a connu un succès considérable à l'époque, mais ce qui m'étonne, moi, c'est son succès permanent, j'allais dire, au fil de l'histoire.
Oui,
quand même,
et non.
Oui, mais c'est repris par les historiens de l'art ou les amateurs de peinture savent que c'est un genre bien codifié,
absolument.
D'accord ? Mais il peut même être réutilisé par des artistes très contemporains, parfois pour le détourner, mais on a tous en tête à peu près un ou deux Canaletto, même si on ne le visualise pas parfaitement.
Oui,
c'est quelque chose
raison.
Qui est très inscrit. Comment on explique ce succès ?
Au XVIIIe siècle, il y a un phénomène très étonnant qui apparaît. Donc, je vais vous en parler rapidement. Canaletto rencontre le consul de Grande-Bretagne, dont le nom est Joseph Smith. Il le rencontre donc à Venise et ce consul décide, ce qui est très étonnant, de constituer une galerie d'exposition dans son palais.
C'est-à-dire
dans son palais officiel.
Donc,
il achète des tableaux de Canaletto et il les présente. Mais pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il rencontre un de ses compatriotes, il l'emmène chez lui et lui montre les Canaletto. L'autre, que fait-il ? Il découvre ça, il se dit « mais c'est formidable, voilà mes souvenirs, où se trouve l'atelier du dit Canaletto ?» Et on l'emmène chez Canaletto, qui lui, tout de suite, reçoit la commande et donc qui va réaliser ses tableaux. À la fin du XVIIIe siècle, quand Smith rentre en Grande-Bretagne, il va présenter sa collection qu'il a ramenée avec lui, plus d'une soixantaine de tableaux de Canaletto, au roi George III. Et le roi décide d'acheter intégralement l'ensemble, plus les dessins, les gravures et le reste. Donc, va se constituer en Grande-Bretagne un fonds très important de peintures de Canaletto, notamment dans les collections royales, mais il y en a bien d'autres.
Hein, en Russie
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la Grande-Bretagne, qui va, dès cette période, occuper une place centrale dans l'échiquier européen, va évidemment beaucoup contribuer au succès, à la réputation de Canaletto. Et puis ensuite, les choses se poursuivent au XIXe siècle et au XXe siècle. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a 3 ans de cela, nous avons, nous, Musée Jacques Marandré, accepté le prêt d'un des deux Canaletto, un seul était demandé, à l'exposition rétrospective organisée à Londres puis à Washington. Et comprenez bien que ces deux destinations montre que nous avons affaire au monde anglo-saxon. Donc le monde anglo-saxon n'a jamais cessé d'encenser et Canaletto et Guardi. Regardons de notre côté. Là, nous le savons, puisque plusieurs colloques, des ouvrages scientifiques ont été rédigés, qui nous rappellent une chose assez surprenante. Les Français ont totalement ignoré et Canaletto et Guardi. Prenez les musées français au XIXe siècle et même au XXe siècle, et vous vous apercevez que très peu d'entre eux disposent d'œuvres de ces deux peintres. Donc c'est un peu une première que nous offrons à notre public et à nos visiteurs. Voilà, nous essayons de, non pas corriger l'histoire, mais en tout cas de montrer, parce que les œuvres sont magnifiques, nous en sommes persuadés, de montrer ce pan de l'histoire de l'art, cet élément qui fait partie de la peinture et qui, chez Édouard André, a sa place, hein, puisque lui-même a été un très grand amateur, vous le savez, d'art vénitien, de Tiepolo, à Canaletto, en passant bien entendu par Guardi.
Peut-être que pour terminer, on pourrait évoquer la vision imaginaire de Venise vue par Canaletto, qui faisait des caprices, les caprices pas au sens de faire un caprice bien entendu, mais qui est ce genre pictural de recomposition d'une cité complètement fantasmagorique et fantaisiste. C'est typique aussi de l'esprit du XVIIIe siècle.
Alors, vous avez parfaitement raison, c'est typique de l'esprit XVIIIe siècle. Et en Italie même, du début à la fin du siècle, on va voir un certain nombre d'artistes interpréter cette façon de faire. Et je vous rappelle que si j'évoque le nom de Piranèse, eh bien, on est tout à fait dans cette direction. Mais revenons à Canaletto. On pensait, en réalité, là encore, c'est une espèce de lieu commun que nous essayons de dissuader. On pensait que les caprices, les capriccio, comme on dit en italien, c'était Guardi qui les avait surtout pratiqués. Et vous verrez que dans la dernière salle de l'exposition, nous montrons une composition de très très grande dimension. C'est quasiment là aussi presque un décor de scène. Et ce grand capriccio, c'est une œuvre qui date du tout début de la carrière de Canaletto. Donc, on montre bien que, dès le début, Canaletto l'a pratiqué. Alors, de quoi s'agit-il et en quoi les caprices vénitiens se distinguent des autres ? C'est un genre, en réalité, qui a été inventé au début du XVIIIe siècle à Rome. Et au début, avec un artiste comme Panini, il s'agissait de juxtaposer la Rome contemporaine à la Rome historique. C'est-à-dire que dans un paysage, on mettait des éléments qui appartenaient à l'Antiquité.
À la Rome antique.
Et ça n'est pas totalement faux dans la mesure où vous savez bien que à Rome en particulier, les deux sont imbriqués. On ne peut pas séparer la Rome antique, la Rome historique de la Rome actuelle. Ça n'est pas possible. Alors qu'à Venise, évidemment, les choses sont complètement différentes. Alors, connaissant le genre, appréciant ses compositions, qu'imagine Canaletto ? Eh bien, lui, il va se souvenir de l'idée qui consiste à installer des bâtiments imaginaires sur sa toile. Mais surtout, il va le faire en enlevant toute référence contemporaine. Et encore plus, il ne va pas utiliser des bâtiments historiques à Rome, le Colisée, le Forum, etc. Ce sont des bâtiments bien connus. On aurait pu imaginer des peintres vénitiens réutilisant ce
et
même
on ne voit pas dans les caprices vénitiens ça. On ne voit jamais, on n'identifie pas un bâtiment
jamais,
connu.
Jamais de bâtiment connu, jamais d'éléments qu'on peut en effet rapporter à tel ou tel édifice antique. Et le résultat, c'est qu'on est dans le rêve le plus complet. Et puis, Canaletto comme Guardi vont rajouter des petits personnages qui s'activent sur le devant, au premier plan, pour donner plus de vie à ces scènes qu'on pourrait croire comme totalement rêvées. Alors ça, je le répète, c'est très étonnant parce que, oui, c'est une invention de Canaletto et qui va ensuite ouvrir la porte à quantité d'interprétations qui sont données par tous ceux qui vont le suivre. Alors nous retrouvons Bellotto en particulier et puis nous découvrons Guardi. Et je vous rappelle que Guardi est l'auteur d'une composition, d'un portique qui appartient aux collections permanentes du musée Jacquemart-André et qui a été là aussi déplacé pour l'exposition. Donc cette œuvre qui est de très belle qualité, elle vient naturellement s'installer dans cette salle qui retrace en effet toutes les interprétations faites par ces grands artistes.
C'est la fin de l'exposition d'ailleurs.
C'est la fin de l'exposition. L'idée étant, si vous voulez, de montrer que, voilà, il y a, vous le disiez à l'instant, certes, cette demande de... Alors, je vais employer un mot que je n'aime pas utiliser, mais pour bien me faire comprendre, de topographie, bien que je crois avoir été assez clair que s'agissant de l'un et l'autre, on ne peut pas parler d'instruments de caractère géographique et scientifique. Et puis, vous voyez que dans leur fantaisie, ces mêmes artistes sont capables de se laisser aller à ces œuvres qui sont de pure fiction.
Voilà, un imaginaire complet. Donc, on parle de ces peintres qui ont un sens particulier de la mise en scène, l'un comme l'autre, l'un tout particulièrement par ses origines et son univers familial, jusqu'à s'ouvrir à une imagination et une fantaisie totale. Et qui est aussi un signe du rapport au temps et à la découverte de l'histoire à l'époque des Lumières. Ce sont vraiment des peintres de leur temps,
absolument,
à la fois dans leurs moyens et dans leur expression, comme vous venez de nous le rappeler si bien.
Merci.
Merci Nicolas Sainte-Fargarneau. Merci beaucoup de nous avoir présenté cette exposition. Canaletto Guardi, les deux maîtres de Venise, c'est à voir au musée Jacquemart-André jusqu'au 14 janvier 2013. C'est aussi l'occasion de retrouver ses œuvres de façon plus permanente chez vous, en vous procurant le catalogue de l'exposition, publié chez Culture Espace au Fonds Mercator, et puis de parcourir les musées aussi bien européens, que ce soit à Londres, à Saint-Pétersbourg ou à New York, de retourner voir ces toiles quand elles seront à nouveau dispersées, parce que là, on en a une cinquantaine sous les yeux pour le plus grand plaisir des visiteurs et pour un sujet qui a quelque chose d'intemporel. Pour terminer, une dernière note, Monsieur Nicolas Sainte-Fargarneau, votre coup de cœur sur Venise passe-t-il par un Canaletto ou un Guardi ?
Eh bien, écoutez, en ce qui me concerne, c'est Canaletto.
Et une toile particulière ? Ou
oh,
un
oui,
tableau ?
Oui, oui, la représentation de la Piazza San Marco par Canaletto, ce grand tableau qui fait partie des collections du musée Thyssen à Madrid.
À Madrid.
Qui est, je crois, une révélation.
Voilà, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.